Olivier Dobremolle, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes tous les deux réunis dans le malheur, la douleur.
Et le reste.
Et la pestilence.
Oh oui.
Pour pouvoir parler de ton dernier bébé, à savoir une énorme encyclopédie.
Je t'en prie.
Qui s'intitule Méchant et qui traite des grandes figures du mal au cinéma et dans la pop culture. Qui vient juste de paraître, et je pense que ce n'est pas innocent en rapport avec Halloween,
mais pas du
chez
tout.
Hachette. Hachette, ouais. Qui est donc en train de développer toute une gamme dédiée à la pop culture. Et si j'ai donc bien compris, c'est un peu toi, qui, comme le sale gosse que tu es, et aller les voir et à lever son petit doigt boudiné en déclarant que le sujet t'intéressait suffisamment pour que tu puisses en parler pendant plus de 350 pages.
C'est exactement ça. Alors 320 pages, pas 350, mais on aurait pu faire 400, effectivement. Donc oui, je suis allé voir Hachette Heroes, parce que j'étais sur place pour Hachette Comics pour des projets personnels. Et il se trouve que j'ai rencontré donc Anne Vallée et Antoine Béon, avec qui on a pu discuter de culture pop, de films, de séries, de thématiques diverses. Et on est tombé assez rapidement d'accord sur une thématique qui pourrait être intéressante pour eux et pour moi également, qui est la thématique des méchants au cinéma, mais pas tant qu'au cinéma, mais également au niveau de la culture populaire, puisque le cinéma, on va dire, emprunte au théâtre, emprunte à pas mal de choses. Et donc la figure centrale du méchant pourrait être intéressante comme thématique à aborder, à approfondir dans bon nombre de domaines.
Alors nous tombons sur un grand volume, ça fait plus que son 24-29-7, le tout avec une sublime illustration de Freddy en couverture. Alors d'où est venue justement l'idée de mettre le croque-mitaine, pour ainsi dire, le personnage au griffes d'acier, au rire sardonique et aux répliques ô combien grinçantes et à forte connotation sexuelle, légèrement dévergondée.
C'est toi qui l'as dit.
On est
d'accord. En fait, oui, c'est une figure assez iconique du mal pour les grandes années 80-90. Tu as parlé du croque-mitaine, qui est très important, et il en fait partie. Donc, ça, on va dire, c'est un serial killer atypique, puisqu'il revient d'outre-tombe, comme beaucoup de ses confrères de l'époque. Donc c'est une marque de fabrique assez intéressante, le côté gore, le côté effets spéciaux. On est quand même sur un film assez coup de poing de Wes Craven, l'un de ses meilleurs à l'époque, il faut être assez logique, visuellement, thématiquement. Et puis un très bon acteur, pour lequel on était plutôt habitué à le voir du côté lumineux à la Willy, hein, du côté de V, qui était une très très bonne série SF atypique, surtout pour l'époque, crue même, avec une certaine valeur d'anti-héroïsme. Donc on avait des anti-héros assez marquants, comme le personnage joué par Ironside, et on avait aussi un gentil alien qui était joué par Englund, et qui est passé de l'autre côté, du côté obscur, avec Freddy Krueger, qui est pour moi l'un des vilains les plus charismatiques de l'époque. Donc c'était d'une certaine façon assez logique de l'avoir en couverture, parce qu'il est emblématique, il est iconique. Et c'est Guillaume Menuel, qui est concept artiste, qui a travaillé sur cette illustration, comme 49 autres copains illustrateurs, qui travaillent dans la BD, l'illustration de couverture et le concept art, qui m'ont fait la joie et le bonheur de m'accompagner dans cette démarche particulière, qui était de faire un ouvrage avec toute l'humilité, d'essayer d'être le plus référentiel possible par rapport à la thématique.
Tu as une très grande cave ou tu les as tous mis dans une étable?
Tu connais la réponse.
Très bien. pour continuer justement sur la description du livre, tu fais quelques jolis chapitres justement où tu reviens sur les origines du mal, le tout en mettant d'un point de vue historique, en resituant justement certaines figures maléfiques, mais ça nous y reviendrons bien vers la fin de cette interview, par rapport à tout ce que ces figures, donc là on parle essentiellement de cinéma, on parle énormément effectivement de méchants issus du cinéma des années 80, qui vont devenir de véritables icônes,
c'est ça,
qui vont avoir une certaine réalité, même si souvent, ben comme tu le dis par exemple par rapport à Freddy, ou moi je pense aussi à Jason Voorhees,
oui.
Le premier film mis en scène, que ce soit pour Freddy ou pour Jason met en scène d'un côté effectivement un tueur sanguinaire qui va tuer dans les rêves et de l'autre côté un petit garçon donc difforme qui s'avère ne pas du tout être
mais pas du tout voilà c'est ça du exactement
et
du
c'est
premier
après justement j'allais dire c'est un peu l'appel du côté obscur des de pas mal justement de maisons de production ou autres, on se dit ah tiens il y aurait peut-être moyen de se faire un peu plus de fric, donc on va prendre l'une des idées qui apparaissent dans le film et ensuite comme tu dis ça devient le plaisir coupable des slasher movies, le plaisir coupable de regarder
alors,
des effets spéciaux.
T'as exactement ça, voilà, le côté gore, on est d'accord, hein. L'important c'était d'avoir une thématique forte sur les antagonistes. On sait que depuis le début de l'histoire du cinéma on a besoin d'une figure obscure face aux héros. Parce que, faut être logique, il y a un côté mannequin, un côté stéréotypé qui parle à tout le monde. Le spectateur est assez voyeur, donc a besoin d'émotions fortes. Donc souvent, soit le côté film auteur ou le côté mainstream apporte ces valeurs d'émotion, que ce soit par rapport au thriller, au western, à la SF. On a besoin d'une figure obscure qui représente un petit peu la contrepartie du héros lumineux. Et c'est vrai, comme tu disais, il y a une forme de stéréotypage des années 80, notamment sur le film d'horreur, où à partir du moment où on a un filon particulier pour les studios, on va exploiter à fond, jusqu'à avoir des séquelles incroyables, bizarres, parce qu'évidemment, à la fin des Freddy Krueger, on tombe sur le grand guignol et sur l'humour potache, etc., comme la série télévisée également, qui est très très éloignée du premier Freddy. Tout comme les sagas de Jason, Vendredi 13 et Plus y Affinité, où on se retrouve avec du Jason X, du Jason versus Freddy, dit d'ailleurs, puisque les deux se rencontrent également dans le cinéma.
On verse dans la comédie horrifique.
C'est du fan service,
voilà.
Comédie horrifique.
Complètement
voilà.
Assumé. Voilà. Quand il récupère, en fait, ça reste un de mes grands souvenirs de ciné. Quand tu achètes le DVD et que tu mets justement la version où le réalisateur et d'autres acteurs parlent, alors le pauvre acteur qui incarnait d'ailleurs Jason était quasiment causé autant que son alter ego dans le film.
C'est ça, c'est
Robert Englund occupe naturellement
tout l'espace du DVD.
Le terrain pour pouvoir parler de lui et de tout ce qu'il fait. Mais tu t'aperçois justement toute la déclinaison, comme tu dis, quasiment plan par plan, tel réflexe, tel personnage.
C'est du stéréotypage, on est d'accord, c'est du stéréotypage. À un certain moment, par rapport aux séquelles, on a juste besoin d'occuper l'espace, de remplir un film sans scénario et surtout avec, comme tu disais, le slasher, un nombre de victimes. Donc c'est très différent d'autres films où on travaille plus sur une émotion, un thriller, un suspense particulier. Le slasher est un genre à part qui surexploite les valeurs horrifiques, gore. Et c'est différent de, je sais pas, La Nuit des Masques de Carpenter, où on est plus sur le suspense, même si c'est un tueur au masque. Mais par contre, la façon de faire, l'iconicité du personnage est complètement différente.
Alors, pour nous recentrer sur le bouquin, nous avons donc toute une série de fiches où tu présentes finalement l'origine du personnage, un peu son histoire, et où tu dévoiles à la manière des spoilers dont tout le monde finalement devient relativement fan, et Game of Thrones n'est pas pour ainsi dire la première série à avoir lancé le genre, ce qui arrive finalement à ce pauvre méchant dans la majorité des films, et un peu aussi ce qu'il représente. Au niveau justement de la majorité des films et comme figure iconique.
Alors effectivement, on a déjà le principe d'opposition facile, très manichéenne par rapport au héros dont on a parlé, parce que c'est une fonction. On a besoin d'une opposition pour que le héros franchisse des épreuves, des obstacles et puis soit transfiguré et gagne de l'autre côté. Les méchants sont souvent très différents en fonction des genres filmiques, que ce soit le western, la SF, que ce soit la fantasy. Très facilement, ils apportent une forme de plus-value et utilisent, et on va dire, entretiennent chez les spectateurs soit quelque chose de très franc, soit quelque chose de très ambigu, mais en jouant sur des peurs, des craintes particulières, que ce soit notre crainte ou la peur du noir, de la dévoration, de la chasse, de la perte de la mémoire, de la transformation, de la souffrance. On a un peu tout ça de façon très 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 facile. À la base, c'est la peur de la mort. Prédation oblige, parce que nous sommes des êtres vivants, donc des animaux. Donc souvent, les grands méchants, les plus viscéraux, sont plutôt des prédateurs. Du moins, ceux qui ne sont pas forcément charismatiques sur l'éloquence, mais sur la présence. Donc on reparle de, je sais pas, mais encore une fois, de Zaroff jusqu'au prédateur, tout simplement, qui sont des chasseurs, des
oui,
chasseurs
c'est
nés.
Fort, voilà. La sensation forte, justement, d'aller chasser une proie.
C'est ça. C'est, on a besoin de trophées. Voilà. Et donc, le personnage, et donc forcément le spectateur, se retrouve en situation de proie. Donc, les ressorts de ce genre de film sont une espèce de huis clos dans une île, dans une jungle. Mais c'est exactement ça. On regarde Les Chasses du Comte Zaroff ou Predator, c'est exactement les mêmes ressorts. Sauf que on a un film de survie d'un côté, et puis un film d'action très bourrin des années 80, extrêmement décomplexé.
Très bien. Alors, au niveau de la totalité des personnages que tu t'es amusé à développer, y en a-t-il certains pour qui tu as eu un peu plus d'acquaintance, si j'ose dire ? Y a-t-il eu certaines figures que tu as redécouvertes, d'autres où tu t'es dit « Ah, finalement, ils étaient bien, et puis là, ça ne me parle plus trop », ou d'autres où, au contraire, tu as découvert certains aspects qui t'ont fait tomber sous le charme.
Il y a des formes de Madeleine de Proust à un certain moment, c'est-à-dire qu'on vit dans des souvenirs. Moi, j'étais, on va dire, j'ai travaillé dans un vidéoclub, j'ai travaillé dans un cinéma, et puis après, j'ai été enseignant en cinéma, donc je vis avec des souvenirs de cinéma. Il y a certains moments, il vaut mieux pas revoir les films. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vieilli, parce que on vit dans un... Mais pas du tout, parce qu'on a grandi. Et souvent, les méchants sont un peu le reflet de leur époque. Donc c'est pour ça que peut-être qu'il y a un grand succès sur les remakes ou les spin-offs ou les choses comme ça. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a besoin d'une modernité ou d'une modernisation. Je n'ai pas dit tout le temps, parce que maintenant, c'est l'ère de la non-créativité et qu'on repasse à la moulinette du recyclage, et c'est beaucoup plus facile. Mais effectivement, je reste persuadé que les méchants sont un peu le reflet d'une certaine époque, que ce soit le côté très manichéen, très héroïque des années 30-40, on a besoin de quelque chose de très théâtralisé, où on a besoin, pour les années 40-50, surtout pour les États-Unis, d'autres types d'adversaires, plus idéologiques, plus politisés, où on se retrouve dans les années 60-70 avec des méchants beaucoup plus ambigus, parce qu'on a passé le cap des studios et qu'on est plus dans les films d'indépendance après tout simplement Easy Rider ou ce genre de choses. Il n'y a qu'à voir du Taxi Driver pour se dire ah oui, mais où on se situe ? Un après-midi de chien, ce genre de film où au final les personnages principaux pourraient être considérés à certaines époques comme des méchants sans antagoniste, si ce n'est la police ou les forces de l'ordre. Donc on peut se poser la question de l'empathie du spectateur avec ce genre de personnages, parce que si on regarde Travis Bickle de Taxi Driver, qu'est-ce que c'est ? Un anti-héros, un anti-méchant, un méchant pur. En tout cas, c'est quelqu'un qui est comme le Punisher, quelqu'un qui va nettoyer les rues de façon obsessionnelle en étant focalisé sur une vie nocturne, sur tout simplement une obsession de la femme. C'est quand même un stalker. Il va passer au meurtre, presque le meurtre de masse, le meurtre politique. Il ne fréquente que des pornos du soir dans les boulevards hyper urbains. On se dit, ah oui, mais comment se reconnaître en lui, si ce n'est que c'est un vétéran du Vietnam qui revient et qui ne trouve pas sa place. Donc c'est l'un des personnages les plus humains qui soit, les plus étranges, les plus ambigus, et il pose de vraies questions. Là, qu'est-ce qu'on est en train de regarder ? Et à partir de ce moment-là, même les autres méchants, même les autres gentils, ont des personnalités beaucoup plus complexes, beaucoup moins manichéennes qu'avant. Et y a une espèce de retour des studios à partir de la fin des années 70-80, à partir des gros succès comme Les Dents de la Mer, comme Star Wars et Indiana Jones, évidemment, qui reviennent en fait aux recettes des céréales des années 40 et des grands studios, c'est-à-dire la simplification pour l'entertainment, le divertissement. Donc on repart, et c'est logique, pour les années 80-90 avec des recettes et des méchants très stéréotypés. C'est le cas des buddy movies, hein. On regarde L'Arme Fatale, on regarde Piège de Cristal, il n'y a pas plus emblématique que ça. Tout le monde se souvient de Hans Gruber. C'est une évidence, et pourtant il n'y a pas plus, presque caricatural, théâtral et manichéen que lui. Mais ça fait partie carrément des grands classiques. Tout le monde adore Rickman dans les rôles de méchants. Le shérif de Nottingham est incroyable. Il bouffe tout l'écran à lui tout seul. Pourquoi ? Parce qu'il est complètement hystérique. Et c'est complètement différent d'un... si on regarde bien dans la saga Harry Potter, Alan Rickman qui joue Rogue. c'est quoi Rogue? C'est quoi Severus Rogue dans Harry Potter? Bah, c'est toute l'ambiguïté d'un méchant qui souffre et qui n'en est réellement pas un. Donc c'est, voilà, on a un peu bouclé la boucle, on arrive à des choses beaucoup plus complexes maintenant. Enfin, on arrivait, puisque évidemment maintenant on est aussi dans une norme de la surenchère du blockbuster, etc. Où bah, les personnages sont très 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 manichéens. Le dernier bon méchant en date pour moi remonte à Dark Knight.
Joker, oui, voilà. Avec son côté typiquement nihiliste,
c'est ça.
Anarchiste, et en même temps le côté un peu magicien, parce que quand on y regarde bien, il y a une espèce de, pour ma part, ils l'ont transformé en une espèce de Fu Manchu. On tombe sur, oui, le criminel sortant de nulle part et qui réussit finalement à tout contrôler tout au long du film, et où on a l'impression qu'il est capable de sauter d'un point A à un point B.
Alors oui, il y a ce côté serial. Après, Fu Manchu a le caractère de désir de conquête du monde que le Joker n'a pas. Parce que lui, il amène une chose,
Joker,
voilà, il amène le chaos, il amène la folie, il amène une autre valeur que les autres n'ont pas.
Comme tu dis,
voilà, c'est un agent du chaos absolu. C'est-à-dire qu'il amène le désordre.
Alors, c'est l'autre face de la pièce.
Oui, bien que Batman dans le Dark Knight n'amène pas réellement l'ordre pour moi. Parce que c'est plutôt du Harvey Dent. C'est un autre personnage qui amène
l'ordre. C'est la figure de vigilante.
C'est ça.
Typiquement américaine, du type qui essaye d'arranger les choses à l'américaine. C'est-à-dire, j'arrive effectivement sur mon cheval, mon colt, enfin mon batarang dans ce cas-là.
C'est ça.
À la ceinture. Et effectivement, toute la réflexion du film, bah, c'est un petit, dans une des phrases de Harvey Dent, c'est bah, finalement. Pourquoi vit-on ? Si ce n'est, est-ce qu'on vit pas trop longtemps ?
Et c'est ça qui est assez remarquable, parce que je pense que le Dark Knight, c'est pas la vision de Batman, ou c'est pas la vision de Joker, c'est la vision d'Harvey Dent, en fait. Et justement, à un certain moment, il y a une bascule, et c'est pas pour rien qu'Harvey Dent est transformé en double face.
Tout à fait. Alors, au niveau de la totalité des bouquins, donc extrêmement plaisant à lire, ça, on peut carrément dire à la totalité du lectorat, c'est pas comme si tu allais acheter des espèces de fiches Wikipédia améliorées. Tu apportes réellement une plus-value finalement à la figure du méchant, que ce soit par les petits chapitres que tu mets en scène pour resituer justement tout le contexte, qu'est-ce qu'un méchant, comment devient-il, comment existe-t-il, à quoi peut-il faire référence et quels moyens utilise-t-on pour pouvoir le symboliser à l'écran. Que ça soit sa démarche, que ça soit son costume, que ça soit justement les phrases choc et qu'on va tous retenir, que ça soit certains détails qui vont automatiquement revenir. Donc la vie, ça va être, comme l'avait révélé Wes Craven, simplement un type qu'il avait vu avec un pull, un par-dessus, un chapeau de feutre et qu'il avait extrêmement impressionné quand il était jeune. Et à partir de là, Unglund va brosser finalement un personnage cynique, battu, machiavélique, et ainsi de suite. Donc on tombe sur des icônes caractérisées par une représentation technique. Là, il y a deux, trois éléments qui permettent de dire automatiquement. On tombe aussi sur une représentation musicale. Chacun aura un thème qui va forcément jaillir à l'écran. Par exemple, tu parlais de la nuit des masques, il y aura toujours cette espèce de petite musique lancinante. Ouais. Visons justement dans le film d'horreur à préparer le public à faire le fameux jumpscare.
Voilà, c'est exactement ça. En fait, ce que je voulais faire, c'est qu'il existe des méchantiers partout sur Internet où il y a des classements de 10, 20, 100 grands méchants avec une préférence en fonction, pourquoi pas, du site de référence. Est-ce que c'est cinématographique? Est-ce que c'est vidéoludique? Etc. Là, le but à un certain moment, c'était de faire une introduction au mal. La culture populaire et dans la culture en général, venant à quoi correspond le mal dans les mythes et légendes, comment il a pu être incarné au fur et à mesure des décennies, notamment au théâtre, notamment au cinéma et dans tous les genres cinématographiques. Et l'intérêt, c'était, comme tu disais, une forme de plus-value avec des fiches qui pouvaient servir non seulement à redécouvrir un méchant qu'on avait déjà vu dans tel ou tel film, se remémorer certaines choses, ou au contraire donner envie tout simplement de voir ou de comprendre un méchant qui tout simplement était à un certain moment un point d'arrivée d'un certain nombre de méchants qui l'ont précédé. Donc l'intérêt, c'était de faire des hiérarchies de vilains, de travailler sur des genres narratifs différents, puisqu'on aborde le western, la fantasy, le polar, et d'autres genres comme l'horreur pure, à travers des figures féminines et masculine, parce qu'il y a aussi, il n'y a pas que des méchants, il y a aussi des méchantes qui sont charismatiques, qui ont leurs propres œuvres, leurs propres stéréotypages, leurs propres évolutions. Et c'était ça qui me tenait à cœur, c'est-à-dire, c'est pas faire qu'un dictionnaire ou des entrées encyclopédiques, c'est essayer de donner un caractère à chaque méchant, afin soit de montrer ce qu'il était, de permettre à tout un chacun de se remémorer le vilain qu'il avait vu à un certain moment, ou encore une fois, de donner ou de redonner envie de voir les films. Ça, c'était le plus important pour moi.
Alors justement, pour conclure, je voudrais que nous revenions, et c'est l'envie que j'ai eue en feuilletant et en lisant énormément de passages de ton encyclopédie, c'était revenir justement sur la figure du mal en tant que tel. Ça, à travers la figure du méchant, à force de lire, je me suis aperçu qu'on pouvait tomber sur différents types. Tu tombes, comme on dit, sur au tout début, les premiers grands méchants. Par exemple, on peut penser à Scar de Disney, on peut penser au requin des Dents de la Mer, et ainsi de suite. Ce sont des bêtes, ce sont des prédateurs, ce qui nous renvoie finalement, comme tu dis, à notre statut d'espèce, où à l'origine, pour rester chez Terry Pratchett, avant même que nous arrivions, il y avait les ténèbres. Quelque part, le mal était déjà présent.
Le mal est déjà présent, dans la mesure où l'espèce humaine a toujours eu des craintes. D'abord, la crainte de l'obscurité, la crainte des ténèbres, la crainte de la dévoration, tout ce qui était lié à la propre survie. Après, tu mentionnais, pourquoi pas, les Dents de la Mer ou Scar. Vous voyez, il y a une forme de différence, parce qu'effectivement, le requin des Dents de la Mer, c'est une entité qui peut être personnalisée par le point de vue subjectif, qui va pourchasser la famille Brody à travers les X épisodes. Donc c'est pour ça que je l'ai traité, parce qu'il y a un caractère presque personnel. J'ai mis de côté Cujo, j'ai mis de côté les autres bêtes, les masses de scarabées et pierres si affinité, pour recentrer sur des choses qui pouvaient avoir une forme charismatique ou de personnalité. Je parlais de Scar. Scar, c'est très shakespearien. On est sur le tyran fratricide, qui va en plus s'acoquiner de façon très fasciste avec des hyènes. Donc en fait, c'est l'un des Disney les plus politiques qui soit. Et pourtant, c'est pas des animaux anthropomorphisés, c'est des animaux. Et c'est une fable animalière. Simplement, à la base, on a un tyran qui va tuer son propre frère pour pouvoir destituer son neveu. Voilà, c'est un grand travail sur la volonté de voler un trône à quelqu'un d'un royaume. Et c'est ça qui est assez intéressant. On retrouve des thématiques qui sont régulières dans le cinéma et dans les jeux vidéo. Hein. On a des savants fous qui jouent à Dieu, qui n'ont pas de limite avec l'éthique. On a des tueurs en série qui peuvent ou pas être intelligents, psychopathes ou psychotiques, qui font les gros tics des journaux, mais qui sont encensés et retraités dans les jeux vidéo, dans les séries télé, etc. On a des infirmières de la mort qui ont pullulé dans Stephen King, évidemment. On a des tueurs à gages qui sont très très importants. On a des monstres et des créatures qui ont leur propre environnement, c'est-à-dire les démons, les dragons. Ça va de Smaug à Vermithrax, ça va de Darkness, évidemment, qui est très, ou à Pazuzu de l'Exorciste, comme des démons corrupteurs. On a énormément de champs d'exploration dans les méchants. Mais il y a toujours des jalons, des choses qui sont très régulières dans la temporalité. Et c'est vrai qu'à la base, la peur de la dévoration, la peur de la mort, la peur des ténèbres, la peur de la corruption, la peur de l'autre en soi, la peur de la douleur, ça reste la peur de l'effacement, la peur de la disparition. Tout ça, c'est au cœur même de la vie du héros. Et qu'est-ce qui peut l'apporter, si ce n'est le méchant de service.
Complètement. Finalement, on en arrive à se dire qu'à l'origine, créé pour être une espèce d'alter ego au personnage, comme tu dis, le côté lumineux, le côté sombre, et ainsi de suite. On a une réelle évolution du type de méchant. Je dirais même que ça nous renseigne à la fois sur nos propres sociétés, et voire même sur nous-mêmes. Un exemple, par exemple, parmi tant d'autres, Dark Vador, figure même du mal, finalement, dans le premier Star Wars. Enfin, j'entends l'épisode 4. Dans le cinquième, on commence à avoir une certaine dichotomie qui s'installe. Ah, tiens, c'est le père du héros, pardon pour ceux qui ne savaient pas. Et à partir, donc jusqu'à sa mort dans le 6, et j'allais dire sa réutilisation dans les préquels 1, 2, 3, on découvre finalement un tout autre personnage. esclave, qui va finalement s'affranchir, qui va gravir au sein d'un ordre, etc. Et qui va petit à petit basculer, faire des mauvais choix, les assumer, j'allais dire, pas forcément de bon cœur, et tomber complètement dans le mal pour pouvoir se racheter à la fin.
C'est ça.
Donc on tombe sur des personnages beaucoup moins manichéens, comme tu dis, que ce qu'on avait l'habitude dans les années 30-40, où là c'était vraiment, pour ainsi dire, des méchants grands méchants qui n'avaient qu'un seul but, c'était venir embêter le héros et pouvoir mener à bien leur plan de conquête du monde, si ce n'est pas de l'univers tout entier, sur des gens finalement qui souffrent. Et ça se retrouve par exemple, que ça soit dans Freddy, la figure du croque-mitaine, mais c'est quand même un enfant battu, qui était battu par son beau-père, qui va finalement basculer dans le mauvais côté de la force, en battant lui-même des gosses, et puis en devenant une espèce de pur psychopathe qui va se venger sur les gamins. On tombe sur Jason, qui finalement était le souffre-douleur face au victor, et ainsi de suite.
C'est tout le principe de la nature et culture chez les méchants. D'où vient la méchanceté, d'où vient la malfaisance, est-ce qu'elle a été générée, est-ce qu'elle est culturelle, est-ce qu'il y a un côté victimaire qui est important, ses vices, éducation, etc. On le voit lorsqu'on a des méchantes de service, notamment les marâtres ou les mauvaises mères, dans lesquelles justement le facteur éducatif est quasiment dans la narration, que ce soit du thriller, que ce soit du western, etc. La méchanceté de la marâtre, la méchanceté de la mauvaise mère, elle est là. Elle est sur l'emprise sur les enfants ou les enfants par alliance. Donc là il y a un ressort qui est du conte, du mythe traditionnel, qui va basculer souvent sur l'aspect victime de l'enfance de certains méchants. Donc oui, tu as parlé de Jason. Alors Dark Vador, c'est vrai qu'à la base, c'est extrêmement manichéen, puisqu'on a besoin des Jedi et des Sith. On a besoin de deux forces opposées avec le côté obscur. C'est bien dit, clairement, depuis le début. Après, effectivement, oui, il a basculé. Il y a un côté rédemption sur la fin, puisqu'il faut qu'on retrouve un équilibre. Bon, après, l'univers de Lucas, c'est ça. Hein, c'est un déséquilibre, et puis on retourne à l'équilibre. C'est le travail du cycle que faisait Campbell avec Lucas sur le monomythe, etc. La figure du héros, l'épopée du héros avec X épreuves. Bon, il se trouve qu'effectivement, avec l'épisode 1, 2, 3, on se focalise aussi sur la genèse du mal et la genèse de cet ange déchu qu'est Dark Vador. Parce que c'est comme Sauron, il faut être logique, hein, on est sur les figures mythiques traditionnelles. Un ange déchu, quelqu'un qui tombe comme Lucifer, qui est corrompu, et qui va basculer sur un côté obscur quel qu'il soit, hein, c'est le Star Wars à Tolkien, peu importe, et qui va à son tour corrompre par le biais de l'anneau, par le biais de la force, par le biais de tout ce qu'on veut. C'est un mal, on va dire, mythique. Donc après, il s'incarne de façon différente. C'est vrai que Dark Vador est devenu iconique très rapidement. On parlait de mise en scène, on parlait de tout. Il a une musique thématique de John Williams. Il a une respiration singulière. On peut le reconnaître uniquement en leitmotiv à sa respiration, à son thème musical. On peut le reconnaître uniquement à sa silhouette très samouraïesque de Kurosawa. On peut le reconnaître à la couleur de son sabre laser. On peut le reconnaître à la voix tout simplement de James Earl Jones. Voilà. En fait, c'est assez intéressant parce qu'à travers d'une figure comme, à un certain moment, même Boba Fett, d'une apparition ou de phrases minimalistes, ils vont incarner quelque chose très facilement. Et pourtant, ce n'est pas uniquement manichéen. Si on a Leia et Luke Skywalker qui sont bien habillés en blanc depuis le début, Dark Vador est bien en noir.
Mais là, on retombe sur les codes du propre western.
On est d'accord.
Le méchant doit être facilement identifiable.
Très identifiable. Et c'est pour ça qu'Han Solo est le pur équilibre, parce qu'il est habillé en noir et en blanc en simultané. Donc c'est lui qui fait la part des choses. C'est lui qui est un anti-héros, mais qui peut basculer. Dans Star Wars, tout le monde bascule, de toute façon, il faut être logique. Tout le monde a un lien à la corruption, tout le monde a un lien à la violence, tout le monde peut basculer à un certain moment. Il n'y a que Leia qui a sa force de caractère et qui est une aventurière atypique comme on en voit arriver réellement, entre autres dans la SF, à partir des années 70-80. Je mets Ripley, Ellen Ripley dans le même sac, parce que ce sont des femmes fortes, même si Leia est quand même beaucoup plus choupinette, beaucoup plus maquillée, beaucoup plus apprêtée qu'Hélène Ripley, qui elle est juste un camionneur de l'espace brut de décoffrage.
Ouais. Ne t'approche pas d'elle, salope.
C'est exactement ça. Mais oui, citons jusqu'au bout Alien le retour.
Pour terminer, justement, la conclusion t'appartiendra, mais au final, le méchant n'est-il pas notre alter ego ? Ce que nous cachons finalement en nous, que ce soit, comme tu dis, l'envie, la luxure, la paresse, la jalousie, ces petites émotions finalement typiquement négatives qu'on aime bien mettre de côté, auxquelles on aime bien succomber en regardant l'autre. Et le tueur ne cherche-t-il pas, en tuant justement, le grand méchant, à s'approprier quelque chose auquel il estime ne pas avoir droit et qu'il n'arrive pas à comprendre et surtout à ressentir ?
Là, on est sur le caractère humain, hein, c'est-à-dire l'envie, le désir. On n'est pas des animaux dits, simples et non civilisés, se focalisent sur la survie. Et sur du collaboratif, on a envie, on a besoin de s'approprier une partie de l'autre. Je n'irai pas dire, que c'est notre alter ego, parce que c'est l'autre en soi, ça veut dire qu'il y a une phase de schizophrénie, etc. Je pense que c'est une part sombre. C'est pour ça que nous, en tant que spectateurs, on a besoin de cette catharsis des méchants, parce qu'ils passent à l'acte à notre place, tout simplement. Que ce soit par le vol, que ce soit par les exactions, que ce soit par les crimes beaucoup plus importants. Soit c'est légitimé, soit ça ne l'est pas, mais en tout cas, dans l'esprit des gens, il y a une forme de catharsis. Historiquement, le théâtre, la violence au théâtre, le rire au théâtre était là pour éliminer les pulsions des spectateurs, et le méchant est un outil narratif, littéraire, cinématographique, afin d'augmenter la pression sur le méchant, sur le gentil, je veux dire, augmenter le rythme, donner une vision singulière ou une vision alternative de l'histoire, et surtout donner des émotions au public.
Très bien. Eh bien, je trouve que cela conclut magnifiquement cet entretien.
Je le trouve également.
Merci à toi. Bon courage pour la suite. Tu travailles déjà sur autre chose ?
Oui, alors en BD, plusieurs adaptations en cours, notamment un travail sur la bête humaine de Zola pour Hachette Comics, et également l'adaptation de la série de romans et de la série télévisée Nicolas Le Floch, également pour Hachette Comics. Et j'ai travaillé il n'y a pas si longtemps que ça sur la biographie de François Ier pour la collection Ils ont fait l'histoire de Glénat.
D'accord. Eh bien, écoute, nous te retrouverons d'ici peu encore, comme d'habitude,
toujours sur les étals, avec tes nombreux plans de Machiavelli.
Plaisir, bien évidemment, de conquête du monde.
Merci à toi.
Merci à toi.